C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
On commence ce matin par l'attaque qui a été lancée par Israël contre l'Iran au cours des dernières heures. De fortes explosions qui ont été rapportées dans le centre du pays. Une attaque donc en représailles au tir de la fin de semaine contre Israël. L'Iran qui avait lancé des drones, qui avait lancé des missiles. Officiellement, pas beaucoup de commentaires. Téhéran dit qu'il y a eu 3 explosions près d'une base militaire dans le centre du pays. On ne rapporte pas de dégâts majeurs. Et donc, ce serait une espèce d'attaque modérée dans les circonstances. L'Iran a évidemment déclenché sa défense aérienne dans plusieurs provinces. Les vols commerciaux ont été suspendus à partir et à destination de plusieurs aéroports, dont l'aéroport de Téhéran, et confirme avoir repoussé l'attaque menée par Israël. Ça, c'est la première chose. Entre-temps, il y a eu encore une fois des tirs qui ont été tirés du nord du Liban par le Hezbollah. Et il ne faut jamais oublier la situation à Gaza, parce qu'à Gaza, les combats continuent. C'est sûr que le projecteur a été déplacé depuis samedi, mais on parle de 70 morts en l'espace de quelques jours seulement qui viennent s'ajouter au très lourd bilan de ces Gazaouis qui ont perdu la vie depuis cette guerre lancée par Israël en réponse aux attaques terroristes menées par le Hamas. Et puis l'Ukraine également, encore là, on parle de drones qui ont été utilisés. Le directeur de la CIA qui dit que cette guerre pourrait prendre fin d'ici fin 2024 et probablement par une défaite de la Russie. Et on peut lire également ce matin qu'il y a un homme qui a été arrêté en Pologne alors qu'il aurait comploté pour faire assassiner le président Zelensky. Cet homme aurait vendu de l'information aux Russes sur des accès privilégiés vers un aéroport fréquenté par des dignitaires et très régulièrement. C'est un aéroport qui sert de base de départ et d'arrivée pour le président Zelensky. Donc, il a été arrêté. Chez nous, le prix de l'essence, ça bouge à peine. Là, il y a quelques variations, je dirais 2-3 sous peut-être. Et hier, ça a été un choc brutal. Et on a vu les gens réagir. C'est la plus forte augmentation depuis 2 ans. Et ça a un impact direct sur la facture que vous payez. C'est clair. À peu près tout le monde s'entend pour dire que les prix vont demeurer élevés pendant un certain temps. Et ça va dépendre aussi en bonne partie de la réaction des automobilistes durant l'été. Est-ce qu'on va faire beaucoup de déplacements? Est-ce qu'on va se limiter? Et tout ça s'ajoute dans un contexte où le coût de la vie est élevé, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour l'essence. Ben, ça veut dire que ça gruge. Et là, on peut ajouter l'intérêt aussi, les taux d'intérêt, hypothèque, prix du logement. Ça vient gruger votre portefeuille. Et puis, ce matin, Radio-Canada nous dit que Québec va exiger la vente d'un minimum de camions électriques. Alors, on sait qu'il y a déjà une cible qui a été fixée pour 2035 pour les voitures électriques. Sur 180 000 camions immatriculés au Québec, il y en a 500 seulement qui sont électriques. Puis on va amener le fédéral aussi à financer l'achat de ces camions électriques. C'est Thomas Gerbet qui nous raconte ça. Québec s'inspire de la Californie et qui veut faire en sorte qu'on puisse vraiment livrer des camions rapidement pour renouveler la flotte des camions. Et il y a le ministre Pierre Fitzgibbon qui devrait annoncer ce matin un projet pilote de livraison justement par camion électrique entre Montréal et Québec. Secteur de la santé, il y a beaucoup de choses là, il y a toujours beaucoup de choses. Mais depuis hier, on le sait, il y a une partie de bras de fer qui s'est engagée entre le ministre Christian Dubé et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, les médecins de famille. 900 000 patients ont été inscrits. Pour chacun de ces patients, le médecin a reçu 120 $. Tout ça pour faire baisser la liste de gens qui n'ont pas de médecin de famille et pour permettre d'avoir un accès plus rapide, première ligne. Le ministre a dit que c'est terminé au 31 mai, le 120 $. Et la grande question qui se pose, une fois que le médecin a le montant, est-ce que le patient inscrit obtient un rendez-vous rapidement. Facile d'inscrire le nom de quelqu'un. C'est autre chose d'avoir de la place dans l'horaire. Le syndicat des médecins affirme qu'ils ont dégagé des milliers de plages horaires additionnelles, que du personnel a été embauché et que donc, si les gens n'ont pas eu de rendez-vous, c'est pas la faute des docteurs, il y avait de la place. Puis il y a des médecins qui m'ont dit la même chose hier, que souvent il y a des plages disponibles, mais qu'elles ne sont pas comblées. Et là, vous arrivez avec le fameux guichet. Puis on l'a vu cette semaine, la difficulté d'aller chercher un rendez-vous avec un médecin qui t'a déjà inscrit sur sa liste de patients. Première chose ce matin. Deuxièmement, je reçois copie d'un mémo en Montérégie. Ça dit la chose suivante, sur le renouvellement de vos ordonnances. Beaucoup de gens veulent faire renouveler leurs ordonnances. Ils sont pas capables d'avoir un rendez-vous. Ils n'ont pas de médecin dans bien des cas. Alors voici la procédure depuis le 10 avril en Montérégie. Les médecins de famille, les infirmières praticiennes spécialisées et les pharmaciens ont convenu de ne plus utiliser les demandes de renouvellement d'ordonnances par télécopieur. Vos professionnels de la santé vont gagner du temps et pourront se concentrer à vous offrir le bon service au bon moment. Ça, là, cette expression-là, je suis plus capable. Le bon patient à bonne place, là, on se rend compte que c'est un slogan, là. C'est pas une réalité. Alors, comment faire pour renouveler les ordonnances? Prenez rendez-vous avec un professionnel de la santé, médecin de famille, IPS, avant l'échéance de vos ordonnances. Si vous n'avez plus de renouvellement, vérifiez avec le pharmacien si une prolongation est possible. Si vous n'avez pas de médecin de famille, IPS, vérifiez avec votre pharmacien. Sinon, allez au guichet d'accès première ligne. On recommence le cirque. Puis essayez d'obtenir une place. Je veux dire, c'est l'espèce, on tourne en rond, là. C'est un système qui n'est pas efficace. J'ajoute ce matin des données dans le Journal de Montréal concernant le temps d'attente à l'urgence. Ça ne s'améliore pas. Les Québécois doivent patienter en moyenne 17,4 heures sur une civière avant d'avoir un lit à l'étage. Et ce qu'on se rend compte, c'est que dans la région de Montréal, la majorité des hôpitaux ont dépassé les 20 heures, c'est-à-dire, dans certains cas, 30 heures d'attente sur un lit à l'urgence. Je parle pas du temps que vous attendez pour être vu. Ce sont des gens qui ont été vus, mais qu'on n'a pas de place sur les étages pour les garder. Et tous les jours, j'ai des témoignages de gens qui attendent des 12, 13, 14, 15 heures à l'urgence, assis, pour voir un médecin, pour être trié. Vous allez me dire, ils pourraient peut-être aller ailleurs, ils savent pas où aller. Et ça va pas s'améliorer avec le vieillissement de la population. Puis là, on a compris dans le dédale de mots de Yuri Chassin qu'on avait mis de côté les mini-hôpitaux puis qu'on veut faire des GMF, dans le fond, une grosse clinique pour les personnes âgées. Parce qu'il y a des besoins, il va y en avoir de plus en plus. Mais encore là, c'est compliqué. Tu sais pas exactement comment ça va fonctionner. Fait qu'on n'est pas dans un mini-hôpital. C'est pas une vraie urgence. Va falloir prendre rendez-vous. Puis on va décider si tu peux y aller ou pas. C'est donc compliqué, le réseau de la santé. Et puis, il y a le Journal de Montréal qui parle d'une forte hausse des cas de COVID longue. Les 15 cliniques spécialisées de la province ont 5000 patients sur la liste d'attente. Et probablement qu'il y a plus de gens encore qui éprouvent des symptômes, et ils sont nombreux, là, de fatigue. On raconte ce matin l'histoire d'un homme dans la région de Québec qui a déboursé 10 000 $ pour avoir un traitement expérimental avec des cellules souches au Mexique. Puis on a vu dans d'autres spécialités les dérapes de la médecine à l'étranger. Là. Je parle même pas que d'esthétique. Là. Il y a eu des cas qui sont quand même assez effrayants. Puis justement, il y a des médecins qui mettent en garde la population là, sur ces traitements-là qui reposent souvent sur peu de choses. Donc, ça veut dire que des gens qui se demandent pourquoi ils sont constamment fatigués, pourquoi ils ont comme cette espèce de sentiment d'épuisement depuis la COVID, depuis qu'ils ont développé les symptômes, et ça ne part pas, ben, ce qui est clair, c'est que vous n'êtes pas nombreux. On pourra en reparler, c'est pas ce matin, là, certainement dans les prochains jours. On va parler de la DPJ parce que ce matin, la presse nous apprend que le tiers des ex-jeunes placés de la DPJ sont dans un cul-de-sac professionnel. C'est Katia Gagnon qui a pris connaissance de l'étude sur le devenir de ces jeunes placés. Et ce qu'on découvre finalement, on est d'accord, là, ce sont des jeunes qui partent déjà avec des éléments contre eux dans la vie. Donc, c'est plus de 1000 jeunes de la DPJ qui ont été suivis. Et ce que ça montre, c'est qu'ils ont de la difficulté. À 19 ans, moins du quart de ces jeunes avaient obtenu un diplôme d'école secondaire. Dans la population générale, c'est 80 %. Donc, ils complètent pas d'études secondaires. Ça veut dire qu'ils ont de la misère à se trouver du travail. Un pourcentage d'entre eux, seulement 7 % accèdent à une formation post-secondaire. Et 1 sur 5 a vécu une période d'itinérance, c'est-à-dire dans la rue. Et tout ça, quelques années après le rapport de la commission Laurent. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre essentiellement que ce sont des jeunes qui en arrachent. Je sais qu'on a développé des programmes pour essayer de les accompagner à la sortie. Là, moi, j'ai connu l'époque où à 18 ans, à la date de ton anniversaire, on te donnait un sac vert et on disait « bye ». Et les jeunes se ramassaient dans des parcs itinérants. Puis des jeunes qui venaient, par exemple, de différentes régions du Québec pour s'installer à Montréal. Donc, 43 % de ces jeunes travaillent à temps plein. Et évidemment, pas de formation, ça veut dire des salaires qui sont bas, puis peu de protection. Et toujours à l'âge de 21 ans, 18 % est au travail et aux études. Et ils ont dû, dans bien des cas, toucher des prestations d'aide sociale. C'est une jeunesse poquée, maganée, et qui a été échappée aussi par le système. On peut pas faire des miracles pour tout le monde. C'est des jeunes qui partaient dans la vie, je le disais, avec des prises contre eux, là. Mais les premiers pas de l'âge adulte sont extrêmement difficiles. On va parler tantôt avec Fred là, des faux gagnants là, de prix chez Tim Hortons. Tim Hortons qui a des gros problèmes de crédibilité. C'est l'année passée qui avait fait croire à des gens qui avaient gagné 10 000 $. C'était pas vrai. Ils ont plaidé l'erreur informatique. Puis Alexandre Jean Petrucci qui m'a écrit, puis Fred a parlé avec d'autres personnes, qu'on lui a dit qu'il avait gagné l'équivalent d'un bateau avec également l'équipement requis, là, c'est-à-dire la remorque, puis tout ça. Ça valait au total 68 000 $. Et c'est pas vrai. Il a pas gagné. C'est un problème informatique qu'on a décidé, c'est la réponse de Tim Hortons, de corriger, mais c'est pas vrai que tous ces gens-là ont gagné. La réponse de Tim Hortons est assez étrange. C'est on voulait rappeler aux gens les prix. Mais là, on a mal rempli le formulaire, puis ce sont des gens, puis nombreux, là, puis Fred va nous le dire, à travers le Canada, qui disent avoir, ou en tout cas, qu'ils ont l'impression d'avoir gagné, puis 68 000 $, c'est quand même pas, c'est pas rien, là. Et la grande question, est-ce qu'il y a des vrais gagnants chez Tim Hortons? Et c'est ça, quand c'est pas de contrôle, pas de règles, pas de normes, tu dis, OK, vous annoncez des gagnants, est-ce qu'on peut voir les noms? Est-ce qu'on peut? Ça a l'air que c'est bien compliqué de savoir qui gagne. Et c'est à se demander, puis probablement qu'il y en a, puis probablement que Tim Hortons, c'est une grande corporation, il ferait pas des concours bidons, là. Mais le doute ne peut pas faire autrement que de s'installer. Bonne nouvelle, il paraît que le nombre de vols de véhicules est à la baisse depuis les nombreuses opérations menées, ce qui est en soi une forme d'accalmie, mais les policiers disent en même temps que ça risque de repartir quand même à la hausse. Bon, Airbnb. On le sait, là, la location illégale est un fléau dans les grandes villes et toutes les grandes villes de la planète tentent de s'organiser pour limiter la perte de ses logements, parce qu'on est en rareté. Et la ministre Caroline Proulx avait adopté une législation pour permettre d'avoir un meilleur contrôle, l'inscription obligatoire. Puis rappelons-nous que la plateforme Airbnb a fait preuve d'une arrogance assez incroyable dans ce dossier-là. Et là, ben, la nature humaine étant ce qu'elle est, on découvre que, c'est dans la presse de ce matin, qu'il y a des faux numéros d'enregistrement. Ou encore, t'as un numéro, mais c'est pas la bonne adresse, qu'il y a des prête-noms. Autrement dit, le nombre d'offres de location a augmenté à Montréal, alors que ça aurait dû baisser, parce que théoriquement, c'est limité à certaines rues. Dans des arrondissements, il y a de la réglementation très sévère. Mais là, c'est toujours pareil. Au bureau de Mme Proulx, on dit que la ville a tous les outils entre les mains pour faire respecter la réglementation et fermer les établissements qui ne sont pas conformes. La ville de Montréal, Mme Plante, dit « ce n'est pas le cas, on n'a pas accès à toute l'information, donc on ne peut pas vraiment travailler ». Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis un peu tanné des parties de ping-pong entre la ville de Montréal puis le gouvernement du Québec. C'est jamais de leur faute. C'est de la faute de personne. Oui, vous avez accès. Non, on n'a pas accès. Puis pendant ce temps-là, on se plaint qu'il y a trop de locations illégales, souterraines, ces plateformes comme Airbnb. Alors, on va parler que le responsable, entre autres, de l'habitation à la ville de Montréal, là, sur un projet qui s'en vient, dans le coin de Namur, là, Côte des Neiges et tout ça, où on veut construire 20 000 logements. Et là aussi, disons qu'il y a pas mal de questions à poser. Et puis un mot pour vous dire que on a sélectionné les membres du jury au procès de Donald Trump. Alors, toute cette histoire de sexe, d'argent et de politique. Et on va compléter la sélection des jurés qui vont être là au cas où un doit quitter, maladie ou autre. Donc, mais les 12 qui sont retenus, c'est fait, c'est réglé. Une majorité d'hommes et le procès pourrait commencer vraiment là, à compter de lundi.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler santé ce matin. Plusieurs dossiers, que ce soit cette prise de bec un peu entre le syndicat des médecins, Fédération des médecins omnipraticiens et le ministre de la Santé, Christian Dubé, mais il y a l'urgence. Il y a plein de dossiers. Donc, le ministre est avec nous ce matin. Monsieur Dubé, bonjour.
Bonjour, monsieur Arcand.
Bon, question toujours simple. Oui. Perspective du patient. Il y a 900 000 patients qui ont été inscrits sur des listes de médecins de famille. Chaque médecin a reçu 120 $ par patient. Être inscrit, c'est une chose. Mm-hmm. Est-ce que ces patients-là ont pu être vus par le médecin?
En fait, on va y aller en deux étapes. Ceux qui ont demandé à être vus, ce que je comprends, c'est qu'il y en a à peu près la moitié de ça. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il y avait peut-être pas de besoin. Donc, les 900 000, puis là, j'ai une idée des chiffres, mais le détail là, des résultats, je vais l'avoir dans les prochaines semaines. Alors, je fais attention quand je vous donne ça, parce que c'est les gens du ministère qui avaient accès, c'est pas moi. Alors, on m'a donné les grandes lignes. À peu près la moitié des gens, qui des 900 000, ont demandé à avoir un rendez-vous. Maintenant, ce qui arrive, c'est que ceux qui n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous ou qui ont décidé de pas en demander, est-ce que ce qui n'était pas accessible? Et ça, c'est mon principal enjeu, moi. Parce que l'entente était que, oui, vous enlevez des gens de la liste d'attente. Ça, c'était très bien fait, 900 000. Mais est-ce que, par exemple, les rendez-vous étaient vraiment mis disponibles? Puis ça, je sais que c'est technique, là, mais je veux juste prendre un petit 15 secondes là-dessus. J'ai un ensemble de 700 cliniques, hein, 700 cliniques de GMF qui sont toutes connectées. Est-ce qu'un rendez-vous est donné disponible pour les 900 000 patients? Est-ce qu'il l'était une journée, deux journées à l'avance ou quatre heures à l'avance? C'est là que c'est un peu technique, puis c'est ça que je veux voir. Est-ce que les rendez-vous rendus disponibles l'étaient au bon moment pour qu'on puisse diriger les patients vers là?
Il y a un patient, puis il y a un médecin.
Oui.
Moi, ce que les médecins me disent, c'est pas juste le syndicat, c'est qu'ils dégagent des plages horaires et que le système permet pas de connecter le patient avec son médecin et qu'ils ont du temps, des plages de rendez-vous disponibles pas occupées.
Je veux pas rentrer dans les cas d'espèce. Ça, c'est arrivé, ce que vous dites. Mais est-ce que c'est 10 % des cas ou c'est 50 % des cas? Et c'est là que j'ai eu des données de base, là. Mais moi, ce que je veux voir, c'est les résultats dans l'ensemble. Moi, là, une chose que je veux vérifier, on avait, admettons, l'an dernier, avant le gap, ou il y a deux ans avant le gap, on faisait 14 millions de rendez-vous dans nos 700 cliniques. Est-ce qu'on a eu plus de rendez-vous? Moi, on est prêt à payer plus d'argent, mais est-ce qu'il y a eu plus de rendez-vous dans les faits? Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut prendre un petit... Moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu malaisant de la position du syndicat. Là, je parle pas des médecins, vous savez. Je fais souvent une différence entre le syndicat et les médecins. Ouais. Les médecins ont fait la job. En fait, la job. Là, le syndicat dit que je veux briser l'entente, puis que c'est ou que je veux arrêter le gap. On l'a mis en place, le gap, puis ça fonctionne.
Ça fonctionne.
Mais j'allais dire, docteur Arcand, on prend une petite minute, là. Est-ce que ça fonctionne à 100 %? C'est quelque chose qui existait même pas il y a deux ans. Là, je sais que Il y a des gens qui essayent de montrer que ça fonctionne pas. Mais si ça fonctionne dans 90 % des cas, je vous dis, là, ceux qui appellent puis qui veulent avoir un rendez-vous, dans 90 % des cas, ils ont réussi à avoir un rendez-vous dans des délais raisonnables. Puis ça, c'est mesuré à toutes les semaines. Alors donc, quand je comprends que c'est pas parfait.
Non, mais c'est moi ce que... Et là, je parle pas de médecins, je parle de gens qui se heurtent à l'incapacité. Puis je prends pas juste le cas du député M. Fortin, là. J'ai un collègue ici, il est pas capable d'obtenir, de se faire inscrire sur une liste pour voir un médecin de famille. Le garde...
Oui, mais c'est... Mais, monsieur Arcand, juste une chose, là. Est-ce que c'est parce que c'est le système qui fonctionne pas ou c'est les rendez-vous qui sont pas disponibles? C'est de
mais ça, je le sais pas, moi.
Ben, mais c'est exactement, moi, ce que je veux vérifier dans les prochains jours. Parce que où on a eu une petite tempête avec le syndicat de la FMOQ, là, fait 2 ans qu'on va avoir la mise en place du projet de loi 11, c'est-à-dire accès aux données pour voir les résultats. Je vais avoir ça dans quelques semaines. Alors, c'est sûr que pour certains, ils aiment pas ça se faire mesurer, puis je comprends ça, c'est jamais arrivé. Depuis depuis la mise en place de la santé.
Là, vous leur enlevez 120 $ par patient, puis oui. Vous leur dites de continuer à en inscrire.
C'était prévu que c'était comme ça. Ce que je veux juste expliquer aux gens qui nous écoutent, là, puis je vais être très, très clair. Il y a 2 ans, on a dit, on va faire un projet qui s'est jamais fait. Mais dans 2 ans, on va l'arrêter, parce que dans 2 ans, on va être capable de renégocier une nouvelle entente globale. On appelle ça l'entente cadre avec les médecins. Ça signe habituellement pour 5 ans. Moi, je veux qu'on arrête d'avoir des petites lettres d'entente un peu partout avec des primes, qu'on ait une vision globale. Et c'était convenu il y a 2 ans. C'est pas une surprise, là. Alors oui, on est en négociation. Je trouve ça déplorable qu'on ait sorti la négociation dans le public. C'est ça que la direction de la FMOQ a fait. Moi, j'ai réagi. Vous voulez aller public? Je vais aller public. Moi, j'aimerais mieux pas être dans le public pour la négo. Ce que je vous dis aujourd'hui...
Mais là, quand ils me disent qu'il y a du personnel qui a été embauché, que ça veut dire des mises à pied, ça veut dire... Croyez pas.
Je pense que c'est faire peur aux gens. Moi, je trouve que c'est malheureux qu'on prenne cette approche-là. Je l'ai dit au docteur Agneau quand j'ai envoyé la lettre. Moi, je me fie au professionnalisme des médecins. C'est ça que je lui ai dit. On avait convenu que ça devait maintenant être encadré. C'est un bon service. Ça doit être encadré dans l'entente globale avec les médecins qu'on est en train de négocier. Moi, je lui demande au docteur Amiot, là, qu'on fasse donc la négociation à l'intérieur du service et non sur la place publique.
Là, vous me parliez du guichet. Je voudrais vous parler du dossier de santé numérique. Il y a des projets pilotes, là. Puis là, j'arrive pas à démêler les différents communiqués du ministère.
OK.
Question bien simple. Ce projet-là va coûter combien?
Santé numérique. Santé numérique, 1,5 milliard pour installer à la grandeur du Québec.
Il n'y a pas de dépassement de coûts. Dans les projets pilotes, tout va bien, tout se passe...
C'est même plus qu'un projet pilote. On a décidé qu'au lieu de l'implanter bing-bang, là, comme ça a été fait à la SAC avec les résultats
avec le succès qu'on connaît.
Moi, j'ai toujours implanté mes projets informatiques en faisant un premier, soit dans une usine ou un endroit. Là, on a décidé de le faire dans 2 CCSUS. Il est parti, le projet, là. C'est plus qu'un projet pilote. On le fait à 2 endroits. Ça prend 18 mois pour l'installer. Puis quand il est installé, puis qu'on a fait des ajustements, après ça, on l'implante à grandeur du système.
Ça, c'est l'autre question. J'ai vu dans des communiqués dans 5 ans. J'ai vu dans 12 ans. Ça va être implanté partout au Québec dans combien de temps?
Moi, j'ai toujours dit 5-6 ans. Parce que ce que je vous dis, c'est faisons les 2 premiers, 18 mois. Et là, surtout avec l'arrivée de Santé Québec, là, dans quelques semaines, on va avoir des gens qui connaissent ça, des gens qui ont déjà implanté des systèmes informatiques de grand calibre. Puis là, on va leur demander c'est quoi maintenant la meilleure stratégie de déploiement. Ce que ça veut dire, après les 2, là, on est-tu capable d'accélérer?
Est-ce que c'est pas une trop grosse bouchée pour l'entreprise qui a ramassé le contrat?
Non, parce que ça a déjà été installé dans des systèmes beaucoup plus grands que le nôtre. Je pense en Californie, je pense. Il y a assez d'expérience avec la compagnie Epic, une compagnie américaine, pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un niveau de confiance très élevé.
Est-ce que c'est vrai que les compagnies québécoises ont dit, nous autres, on n'embarque pas là-dedans, c'est trop gros, c'est trop compliqué?
Non, je pense que nous, on a pris une approche d'aller trouver le meilleur joueur au monde. C'est comme si vous dites, moi, je veux avoir mon logiciel de traitement de texte. Si Microsoft, ben nous, on a décidé que le Microsoft pour la santé...
Il n'y a pas de compagnie québécoise qui ont dit, votre approche est trop lourde, c'est pas faisable.
Ben, il y a des consultants qui nous ont mis en garde, parce que c'est pas, il n'y a pas uniquement le choix du logiciel, mais qui l'installe. Ça, c'est important. Alors, on est allé chercher non seulement Epic, mais on a une firme de conseillers qui s'assure que le projet se déroule bien.
Okay. Alors, Bon, on a des tableaux encore ce matin sur l'attente dans les urgences du Québec. On peut pas dire que ça s'améliore. Monsieur Boucher dit que c'est comme ça, puis ça va aller de pire en pire parce que la population vieillit, puis ils vont se présenter plus souvent à l'urgence. Il y a pas d'espoir dans les urgences là. J'ai vu que vos mini hôpitaux étaient devenus. J'ai essayé de comprendre Monsieur Chassin.
Oui, j'ai entendu ça.
C'était un petit peu dur à suivre, mais essentiellement, c'est une clinique pour les vieux que vous allez ouvrir dans l'est de Montréal.
Ben, Charquin, je dirais pas ça comme ça. Là,
mais c'est pas un mini hôpital.
Non, en fait, là, après l'analyse qu'on a faite depuis l'annonce de la campagne électorale, je vous dirais que pour moi, ça va être une clinique spécialisée pour les personnes âgées. Puis, je vous dirais la meilleure façon de le décrire là. C'est exactement ce qui se fait pour les enfants dans deux cliniques qui ont été ouvertes au cours des dernières années, qui sont un grand succès. On les appelle les cliniques HOP, là. Il y en a une à Brossard, puis on en a ouvert une récemment à Saint-Eustache. C'est des urgences, mais des urgences pour enfants. Et comme vous l'avez dit, il y a un vieillissement de la population, on s'est dit, le prochain besoin dans les urgences, c'est de les désengorger avec des personnes âgées qu'on pourrait traiter de façon spécifique.
Mais ils vont pas se présenter comme à une urgence d'hôpital. Il va falloir qu'ils passent par un des guichets.
Ils vont passer par le 811, mais jamais on va refuser quelqu'un qui se présenterait à pied. Je pense que c'est pour ça que je vous fais la comparaison simple. Les parents qui vont à la clinique HOP, là, ils appellent. Habituellement, à l'intérieur de 12 heures, ils ont un rendez-vous, même plus rapidement. Mais si un parent qui arrive avec un enfant qui a mal au ventre et qui n'a pas pris de rendez-vous, ils vont le prendre.
Et est-ce que cette clinique spécialisée va être ouverte la nuit?
Elle est ouverte 24 heures, mais après 10 heures, s'il y a vraiment un cas urgent, il va être référé à l'urgence la plus proche. L'idée, c'est d'être capable de servir, je voudrais, quand on a quatre... Il rentre beaucoup moins de gens à l'urgence entre 2 heures du matin et 6 heures du matin. Ça, c'est connu. Alors nous, on a dit... Elle va rester ouverte toute la nuit parce que des fois, il y a des patients qui vont être là sous surveillance. Mais si vous avez vraiment un cas urgent, vous allez être dirigé vers l'urgence la plus loin, comme la maison de Vaud.
Mais parce que quand je reviens à l'urgence, là, je vous le dis, là, puis vous le savez, tous les jours, là, des gens qui attendent, ouais, qui savent pas où aller, ouais, puis qui partent, des fois, ils ont même pas vu le médecin. Ça a l'air absolument insoluble. Bon. Il y a une cellule de crise, le docteur Boucher, tout, c'est très bien. Mais en même temps, moi, je poirote.
Bon. On a eu une pandémie. Mmh. Pendant la pandémie, les urgences ont baissé. On n'entendait pas parler. Il n'y a personne qui voulait aller à l'hôpital. Pendant la pandémie, ben, il y a des personnes âgées qui ont été vraiment amochées, je vais le dire comme ça. Et là, on paye le prix, là, depuis quelques années, de ce qui est arrivé dans la pandémie. Si vous regardez, là, je vais le comparer, là, l'année 23 versus l'année 24, c'est la première année qu'on s'améliore. Moi, j'ai toujours dit, puis je compte, vous allez me dire, c'est encore 17 heures d'attente, OK? Mais ça a déjà été 21
heures. Moi, je me méfie de ces chiffres-là. Le 17 heures d'attente, ça, c'est le temps sur civière. Le temps que je vois le médecin, on va en rajouter un 12 heures dans certains cas.
Non, mais quand vous avez notre enjeu du 17 heures, là, c'est que vous n'êtes pas capable de monter à l'étage,
oui,
parce qu'il y a trop de monde.
Mais avant que je sois sur une civière à l'urgence, ouais, ça peut prendre bien du temps avant que le médecin m'ait vu.
Non, la prise en charge dont vous parlez, là, ça, c'est entre 2 et 3 heures dépendant des urgences.
2 et 3 heures?
Oui. La prise en charge.
Moi, j'ai des gens qui ont passé 12 heures à attendre pour être au triage, pour être vu.
Bon, c'est ça. Si on rentre dans le détail, là, c'est correct, on va le faire. P1, P2, P3, P4, P5. Il est publié maintenant dans mes fameux tableaux de bord. Le temps d'attente pour un P1 et P2, là, ça, c'est de 10 à 15 minutes.
OK.
Alors, c'est ça une urgence. Une urgence, c'est vraiment les cas.
Oui, mais quand je suis le patient, moi, je suis un P4, là, puis c'est le samedi soir, je sais pas où aller.
Ben, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les P3, P4, P5, ça devrait être dans les cliniques. Et c'est ça que je veux mesurer.
Ils sont fermés.
Oui, mais il y a des cliniques qui respectent pas les heures d'ouverture. Tout ce que je vous ai dit tantôt, que je vais avoir les données pour
non,
les
je
études,
sais.
Je l'ai j'ai jamais eu.
C'est parce que le patient, lui, il se dit, OK, moi, je suis un P4. Je suis pas un cas d'urgence, mais je sais pas où aller. C'est samedi soir, tout est fermé ailleurs.
Bon, M. Arcan, je vous le dis à chaque fois, quand on a un système à gérer, il faut avoir des données pour mesurer les résultats, mesurer nos gestionnaires, mesurer nos professionnels. On n'avait pas ces données-là avant. On va les avoir maintenant. Moi, je vais être capable de dire, dans certaines régions, la gestion des P3, P4, P5 se fait bien. Dans certaines régions, est-ce que les cliniques sont ouvertes alors qu'ils devraient être ouvertes les fins de semaine? Il y a tout ça qui est en train d'arriver. Moi, ce que je vous dis, en 2024, l'année qui vient de se terminer, on a vu une amélioration aux urgences. Est-ce qu'elle est celle qu'on veut avoir dans l'horizon de 2025? On n'est pas encore là. On est à mi-chemin. Moi, je pense qu'on les voit, les améliorations.
OK. Et voilà. Bon, je sais que vous ne voulez pas négocier sur la place publique, là. Mm-hmm. Mais les infirmières de la FIC ont dit non à l'entente de principe. Et je suis inondé de messages d'infirmières qui me disent essentiellement la chose suivante. C'est pas vrai qu'on va me prendre. Par exemple, je suis une infirmière aux cliniques de rendez-vous, puis qu'on va me transférer dans un autre bâtiment, aller m'occuper des personnes âgées dans un centre de soins de longue durée à 20 kilomètres de chez nous. Mm-hmm. Et que ça, là, il y a des, l'employeur, puis on sort l'exemple de la Mauricie, l'employeur le fait. Alors, clairement, est-ce que l'entente qui a été signée prévoit que l'employeur peut prendre des infirmières, des inhalothérapeutes, puis les promener dans le réseau, puis les changer d'affectation?
J'embarquerai pas ce matin dans les conditions de flexibilité, parce que on est en attente de la FIC, là, en ce moment. C'est ça que Mme Lebel a demandé. Dites-nous, parce qu'il l'avait, le syndicat, la direction du syndicat l'avait quand même accepté puis l'avait recommandé. Alors, bon, maintenant, vous avez tenté vos membres puis ils ont dit non dans plusieurs régions. Ce qu'on veut comprendre, ce qu'on a demandé à la FIC, pourquoi dans certaines régions, l'entente a été acceptée puis dans d'autres, massivement rejetée. Soyons clairs. Alors, moi, je vais attendre d'avoir ces résultats-là. On a dit à peu près 2 semaines, là. Alors, moi, je vais m'asseoir avec Mme Lebel, puis on va regarder ensemble. Quand la FIC nous aura donné les résultats, on était très proche d'une entente. Moi, je suis certain que ce petit temps d'attente-là va régler beaucoup de choses.
L'Est de Montréal a dit non. La Mauricie a dit non. La Montérégie, ouais. Beaucoup de monde.
Faisons attention, là. En Mauricie, il y a une grande différence.
Ils l'ont vécu.
Ben, c'est parce que il était dans la convention collective, puis il n'avait jamais été appliqué. Alors, c'est sûr que le premier PDG, Mme Petitclerc, est arrivé, puis elle a brassé, comme je dis des fois, les colonnes du temple. Avec du recul, je pense qu'elle a permis de dire, ça se fait, il n'y a pas eu de TSO par la suite, etc. Est-ce qu'on peut s'améliorer dans la prochaine convention collective? La réponse est oui. Mais à part le Centre du Québec, qui ont vécu ça une fois...
Ben c'est parce que moi, je suis ailleurs, puis je regarde ça. Si on fait ça dans Mauricie, ouais, qui dit que le PDG dis, dans l'Est ne va pas le faire?
Oui, mais ce que je vous dis, c'était la première fois que ça se faisait. On a appris de cette expérience-là aussi. Alors là, maintenant, en tout cas, moi, vous le savez, là, je leur parle beaucoup aux infirmières, je vais sur le terrain. On prend acte de ce qui est arrivé. Okay. On va attendre qu'ils nous reviennent avec leurs commentaires.
Là, vous avez combien d'employés du privé qui sont revenus dans le public? L'autre fois, vous m'aviez dit 1000.
Oui. Puis, je ne sais pas comment ça va changer avec la réaction de la FIC, parce que...
Ça va refroidir quelques-uns.
Ben, peut-être, là, pour le moment, mais Rome ne s'est pas bâti en quelques jours. Alors, il y a un mouvement qui se passe, parce que là, maintenant, on a mis les tarifs maximum. Ça se fait une semaine de ça. Ça va changer la donne aussi, parce que les infirmières vont être maintenant beaucoup mieux payées dans le réseau qu'ils le sont dans une agence.
Bon. La PDG de Santé Québec va être nommée d'ici la fin du mois.
Ah, vous savez que c'est là?
Présume.
Ah, OK.
Ouais. Est-ce que je me trompe?
C'est une bonne façon de poser la question, mais je vous répondrai pas.
C'est la fin du mois, la nomination?
Oui, j'ai toujours dit pour la fin d'avril.
Fin avril, puis tout ça.
Ouais.
Allez-vous rester à la CAQ? Est-ce que M. Poilievre vous a appelé?
Non, je connais pas M. Poilievre. Je suis très bien où je suis.
Conservateur, ça vous tente pas?
Non, pas du tout.
OK. Non. Puis allez-vous demander un autre mandat au terme de celui-là?
Mais là, je vais commencer par finir celui-là.
OK.
Et je trouve que quand j'aurai accompli... Moi, en ce moment, là, les conventions collectives, l'entente avec les médecins, c'est mes grandes priorités, parce que je veux que les gestionnaires du réseau qu'on est en train d'engager, là, nos
Top Gun.
Oui, voilà. Je veux qu'il y ait les leviers pour bien gérer. Ça, c'est ma job en ce moment. Dans les 2 prochaines années, me concentrer sur ces gros changements-là, les systèmes informatiques, pour que quand les gens vont arriver, ils vont avoir être capables de gérer ce gros réseau-là.
Merci d'être venu ce matin.
Bonne journée. Plaisir,
le Arcan. Ministre de la Santé, Christian Dubé.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Montréal veut construire 20 000 logements, dont la moitié sont des unités destinées à des logements sociaux. Tout ça, c'est le quartier Namur-Hippodrome, donc c'est au cœur de Montréal. Et Robert Baudry, responsable de l'urbanisme au comité exécutif, est avec nous. Monsieur Baudry, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Bon, 20 000 logements, la moitié des logements abordables, là, concrètement, c'est un projet, c'est à l'étude, les travaux commencent quand?
C'est un projet qui démarre. C'est-à-dire qu'on a mis en place le plan. Ça, c'est un plan d'envergure, là. Je veux dire, ça va être le plus grand projet de redéveloppement urbain de la prochaine décennie au Québec. Puis on se donne des moyens avec les deux ordres de gouvernement pour se dire, OK, il faut qu'on arrive vite avec les infrastructures, parce qu'il n'y en a pas actuellement, pour que le développement se fasse vite. Puis après, le développement, c'est en fonction du marché. On a des promoteurs tout de suite qui peuvent démarrer. Ceux qui sont sur Smart Center, là, où il y a le Walmart, proche de la station de métro, eux sont desservis par les infrastructures. Fait qu'avec ce plan-là, on vient modifier la densité, les hauteurs, pour leur permettre vraiment une rentabilité, pour faire levier au développement du reste, puis aller jusqu'à l'hippodrome. On peut penser 10 ans pour les infras, puis peut-être une vingtaine d'années là, pour le développement immobilier.
OK, mais c'est vraiment le point de départ, là. Vous allez faire des études, j'imagine, vous allez pousser ça plus loin. Là, à part la pelletée de terre,
exact.
Là, quand la pépine va débarquer quand?
Ben, la pépine pourrait débarquer d'ici 2026-2027 parce qu'on pense donner des permis en 2025, parce qu'on va avoir le zonage, on va avoir les conditions gagnantes, puis on va avoir le financement des études pour les travaux préparatoires, puis on va commencer les travaux préparatoires puis les infrastructures. Donc, on pourrait commencer quand même assez rapidement. C'est un projet d'envergure, là. C'est la ville dans la ville. Là. T'sais, 20 000 unités, 40 000 personnes en potentiel, c'est comparable à une ville comme Boucherville. Donc, c'est vraiment un travail très ambitieux qui se compare même pas à Bridge Bonaventure, qui se compare pas à Radio-Canada Molson. C'est d'envergure à un nouveau niveau. Là.
J'ai vu dans les communiqués que ce sont des logements où il n'y aura pas de spéculation. Comment vous pouvez dire ça?
En fait, sur 50 % des unités, on veut qu'elles soient hors marché. Par différents modèles. On le sait, dans le temps, là, c'était que du logement social, 100% HLM, financé, HLM ou autre. Là, c'est pas ça. C'est-à-dire comment on est capable d'avoir du logement abordable pour différents types de poches. L'étudiant, avec Utile, par exemple, on en a vu des logements comme ça. C'est un organisme qui le gère, donc on le sait qu'il augmentera pas au même rythme que le logement privé. Mais il est rentable. Des logements pour les personnes âgées, par exemple, qui ont des petites retraites.
Mais ces logements vont appartenir à qui?
À des OBNL. Et c'est comme ça qu'on s'assure vraiment du fait qu'il n'y aura pas de spéculation. Nous, là, on a un grand levier. On possède les terrains. En travaillant avec ces organisations-là, en finançant les infrastructures avec les ordres de gouvernement, on va annoncer d'ailleurs l'outil qui nous permettra de développer ce secteur-là, ben on devient intéressant pour ces OBNL-là qui viennent développer sur le site.
Ça veut dire qu'il n'y aura pas de promoteurs privés propriétaires des logements?
Il y en aura, mais à 50 % ce sera des OBNL qui vont contrôler d'une quelconque façon, de différents modèles. On n'est pas fermé. L'objectif, c'est d'être agile, puis aussi de s'ouvrir aux nouveaux modèles.
Donc, il y a 50 % qui vont faire l'objet de spéculation.
Il y a 50 % de ces unités-là, effectivement, que ce sera des logements privés. Fait que c'est pour ça que je vous dis, bonne densité, mais densité intelligente pour toutes les poches. Donc, on crée beaucoup de logements, parce qu'on est en crise du logement, on en a besoin, mais aussi on répond à différentes réalités. L'étudiant n'a pas la même réalité qu'une jeune famille.
Ça, c'est sûr. Donc, ça se situe où par rapport à cet immense projet à la jonction de la 15 et la 40?
Sur le 15, le Rylemount, ben c'est juste de l'autre côté. En fait, nous, on est face au métro Namur. Donc, c'est vraiment l'hippodrome, mais ça va jusqu'au métro Namur. Donc, vraiment à l'angle, un petit peu plus au sud, à l'angle de la 15 et de la 40. Par contre, avec le transport collectif qu'on souhaite là, parce que c'est un projet qu'on développe sur la mobilité aussi, ben on veut désenclaver le secteur en connectant vers Ville-Mont-Royal par Paris.
Là, je sais que vous voulez mettre un tramway éventuellement, puis bon... Mais est-ce que avec l'arrivée d'un bassin de population comme celui-là, la présence de ce méga projet à côté Rylemount, ça va pas devenir un Capharnaüm complet, la 15 et la 40?
C'est pour cette raison-là qu'il faut du transport collectif lourd. On peut pas penser développer ce secteur-là sur la voiture. C'est la jonction la plus congestionnée, je pense, au Canada. Donc, il faut vraiment avoir une offre généreuse. On a un atout super intéressant. On a une station de métro. Ça aide. Par contre, ça prend d'autobus, du SRB et du tramway. C'est pour ça que nous, on dit, ça aurait été complètement irresponsable de penser développer ce site-là avec une forte densité comme ça, sans transport collectif structurant.
Parce que ce méga centre commercial, puis éventuellement des logements et tout ça, là, on s'entend que je veux bien là, le transport collectif, mais les gens qui vont aller dans les boutiques de luxe, là, je suis pas sûr qu'ils vont prendre le
exact.
Métro.
Mais ça, c'est Rylemount. Puis oui, ça a été la grande critique. Et on le dit parce que c'est sur le territoire d'une ville indépendante. Mais nous, on le dit, là, ça prend de la mixité là-bas, justement, pour avoir des gens qui habitent. On a voulu y faire un projet complètement commercial. C'est l'autonomie de Rylemount. Nous, on a quand même travaillé à avoir une passerelle qui permet d'avoir de la station de métro, un accès directement qui passe au-dessus des carrés. Mais bien évidemment, c'est les préoccupations qu'au jour 1, on a soulevées au gouvernement du Québec.
Bon, Airbnb, je lis dans la presse ce matin que malgré la loi qui a été adoptée par Québec là, pour serrer la vis, il y a encore des gens qui utilisent des fausses données. Bref, il y a encore de la location illégale. Et même, c'est en croissance, là, si je regarde les chiffres. Là, d'un côté, au bureau de la ministre du Tourisme, on dit que la ville a tous les outils pour faire respecter la réglementation. Est-ce que c'est vrai?
Oui, on a des outils pour faire respecter la réglementation. Après, est-ce qu'on a des outils pour vraiment attraper ceux qui continuent malgré la réglementation? Là, c'est là qu'on doit travailler ensemble avec Québec parce qu'eux ont le pouvoir d'enquête. Et c'est ce qu'on fait. Par contre, tu sais, puis je vais le dire tout de suite, M. Tifo, là, qui est dans l'article, là, c'est à mon conseil d'arrondissement qui vient. Hein? Puis on le connaît, on y parle, on est hyper sensible à tout ce qu'il vit. C'est l'exemple parfait du drame que cette location-là a sur notre territoire. On vit les impacts les plus négatifs. La Ville de Montréal n'a aucun intérêt à ce que ce type de location-là se poursuive.
Je comprends, mais donc, là, moi, je suis le citoyen. Mettons comme M. Tifo, là, puis je me dis, OK, moi, j'entends Québec qui dit, voici les outils. Vous, vous dites, j'ai les outils, mais j'ai pas les pouvoirs d'enquête. Donc, il faut retourner à Québec. Pensez que tout ça était réglé de
ben,
pas dernière
en fait,
fois.
C'est ça. Là, c'est comment on est capable d'y aller en action concertée. C'est-à-dire, nous, avec les outils, puis là, on a commencé à le faire. On a transféré la donnée à Québec. Après, c'est pour la résidence principale. Là, ça, c'est à Québec. Là. Je veux dire, nous, par les taxes foncières, on n'a pas cette information-là de s'assurer vraiment que c'est la résidence principale de la personne. Donc, c'est facile de frauder au niveau de Montréal. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit de plus en plus resserré entre le gouvernement dans l'action sur ces personnes-là.
Mais comment ça se fait que depuis la loi, il y a plus de locations de cette nature-là illégales?
Parce que les stratégies sont de plus en plus perverses. Parce que les
parce que
gens
c'est facile
trouvent,
de contourner la loi.
Parce que les gens trouvent des moyens de contourner la loi. Tu sais, une loi, quand on la dépose avec des bonnes intentions puis un règlement, il faut toujours être en mode amélioration. Puis c'est là-dessus qu'on est. Là. Nous, sur la réglementation, sur les opérations sur le terrain, les bottes, les intervenants là, qui sont sur le terrain là, puis qui vont aller attraper le monde puis qui leur donnent des tickets, là, ben on veut continuer à mettre la pression. Puis justement, ramasser de la donnée pour dire aussi à notre partenaire à Québec, ah, peut-être que si la loi, on est un petit peu plus serré à ce niveau-là, ça nous aiderait beaucoup. Donc, on travaille ensemble là-dessus.
OK, mais c'est pas demain la veille là que les illégaux de Airbnb vont se faire coincer. Là.
C'est un grand chantier. Puis je vous dirais que c'est sur le long terme. Puis il faut le continuer. Puis il faut pas lâcher parce qu'on le fait pour notre monde.
Parfait. Merci d'être venu ce matin. Robert Baudry est le responsable de l'urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
La police provinciale de l'Ontario et la Sûreté du Québec ont démantelé une cellule du crime organisé qui commettait ce qu'on appelle des fraudes de type grands-parents. C'est un stratagème qui a permis de frauder 126 personnes, puis évidemment, ça a généré beaucoup d'argent. Le lieutenant David Ouellet du service des enquêtes sur les crimes économiques à la SQ est avec nous. Monsieur Ouellet, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Rappelons aux gens d'abord ce que c'est qu'une fraude grands-parents. Ça fonctionne de quelle façon?
Oui, une fraude grands-parents, ça fonctionne. C'est des groupes qui sont organisés, qui connaissent tout leur rôle. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont contacter des gens. Ils vont se faire passer pour soit un officier de police, soit un avocat. Et ils vont mentionner qu'un petit-fils de la famille ou une personne de la famille est en détresse, a été arrêté suite à une infraction commise, suite à un accident. Et ensuite, vont demander une caution pour pouvoir libérer le membre de la famille. Ensuite, il y a une autre personne qui va arriver derrière et va se faire passer pour le petit-fils devant la personne âgée, la personne vulnérable, jusqu'à réussir à faire comprendre à la personne vulnérable que c'est réellement son petit-fils par des moyens psychologiques.
Mais comment une personne âgée, là, je peux comprendre les problèmes cognitifs, là, mais la personne dit « mais c'était pas mon petit-fils, non? »
Effectivement, dans plusieurs cas, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que les organisations vont faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appels. Donc, c'est environ moins de 1% des appels qui vont fonctionner. Bon, quand une personne vulnérable ou une personne âgée, des fois, ça va être une opportunité, un contexte. On peut savoir certaines personnes sont isolées. Ils vont être vraiment convaincants. Ils vont utiliser un subterfuge vraiment psychologique pour réussir à faire comprendre la situation. Et puis, certaines personnes vont tout simplement embarquer par peur, par crainte, par isolement. Ils vont aussi leur indiquer qu'ils doivent garder ça vraiment le plus secret possible. Ça devient très crédible là, au niveau des fraudeurs.
Est-ce que vous diriez que ces fraudeurs ont de l'information personnelle sur les victimes? Autrement dit, est-ce qu'ils savent leur nom? Est-ce qu'ils ont des données? Est-ce qu'ils sont convaincus qu'ils ont des petits-enfants? Ou si c'est vraiment une partie de pêche?
Ça dépend. Dans certains cas, on peut voir que c'est une partie de pêche. Ils vont faire des recherches justement pour trouver des potentielles victimes sur les sites Internet qui sont publics. Parfois, on peut voir qu'il y a certaines recherches qui peuvent avoir été faites au niveau des réseaux sociaux. Mais je vous dirais que la plupart du temps, on voit que c'est une partie de pêche.
Puis, de quelle façon l'argent est sorti? C'est un virement? Ils vont avec la personne âgée au guichet? Comment ça marche?
Ben c'est dans environ trois façons différentes. C'est que qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est que si la personne vulnérable a de l'argent avec elle, il y a un courrier qui va aller récupérer l'argent. Donc ils vont rester en contact téléphonique avec la personne et ils vont lui dire que un agent de police va se présenter ou un courrier va se présenter récupérer l'argent. Dans un cas où il n'y a pas de courriers qui sont près de cet endroit-là, de l'endroit de la résidence de la personne âgée, à ce moment-là, ils peuvent envoyer une compagnie de transport, un taxi, pour aller récupérer l'argent. Et dans la troisième situation, c'est des transferts bancaires qui sont demandés.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des cartes cadeaux aussi qui sont utilisées?
On a vu dans certains cas, dans certains types de variantes de fraude, que les gens, lorsqu'ils vont récupérer des cartes frauduleuses, peuvent demander l'achat de cartes cadeaux pour les transférer aux fraudeurs. Effectivement, c'est arrivé.
Et ces gens-là sont des gens de l'extérieur du Québec?
Dans le dossier qu'on a travaillé avec la police provinciale de l'Ontario, c'était des Québécois.
Parce qu'il y en a de l'extérieur aussi.
Il y en a de l'extérieur également, c'est partout au Canada. Dans cette cellule-là, c'était des Québécois, des Montréalais et des Lavalois qui œuvraient un petit peu partout au Canada, mais majoritairement en Ontario.
OK. Et ce sont, quand vous dites crime organisé, c'est vraiment une filière du crime organisé ou des gens associés au crime organisé?
On a pu faire des liens dans le dossier qui nous permet de croire qu'il y a des liens avec le crime organisé italien.
C'est peut-être moins qu'un préjugé favorable. J'ai de la misère à avoir des Italiens s'en prendre à des personnes âgées. Non, mais tu sais, il me semble que le respect de la tradition puis de la famille, je me dis, ils vont faire plein d'affaires, là. Mais ça, hier, j'ai été surpris.
Ce qu'on peut penser, c'est que c'est l'opportunité de faire de l'argent.
Ouais, ouais.
Je pense qu'au niveau des fraudes, depuis quelques années, ça c'est très sophistiqué, il y a plus de frontières. Donc, c'est l'opportunité qui est là. Et ce n'est pas juste, c'est plusieurs types d'organisations, de groupes organisés qui vont commettre des fraudes parce que c'est payant.
Vous êtes au crime économique, là. Oui. Il y en a des fraudes, on le disait un peu tantôt, est-ce que c'est parce que les gens dénoncent davantage? Est-ce que c'est une façon de faire ce qu'on appelle des crimes non violents, là, en théorie. Mais à part les fraudes grands-parents, là, qu'est-ce qu'on doit surveiller comme citoyen, là, face à ces groupes, ces individus, là, qui tentent de venir voler notre argent?
Bon, on a vu les fraudes grands-parents. On a parlé aussi récemment des fraudes du type faux représentants également.
Oui.
Qui veulent tout simplement aller chercher les cartes de crédit avec le NIP de personnes vulnérables. On voit aussi beaucoup de fraudes de type investissement. Les gens vont aller sur les réseaux sociaux et vont voir une annonce pour un investissement en crypto-monnaie. Et encore là, des fraudeurs vont les appeler, vont faire des investissements, vont miroiter des profits mirobolants pour que les gens continuent à investir pour se rendre compte du subterfuge quelques temps plus tard.
Il n'y a pas si longtemps, on recevait des courriels d'outre-mer. Là.
Encore.
Puis ça marche encore, ça?
Ça fonctionne encore. On envoie encore un genre d'hameçonnage pour réussir à soit faire des transferts d'argent, soit réussir à avoir les coordonnées confidentielles des personnes pour pouvoir faire du vol d'identité.
Parlez-moi des victimes. Est-ce qu'elles sont mal à l'aise de porter plainte en se disant « Voyons donc comment ça se fait que je suis tombé dans le piège? »
Effectivement, on voit à certains égards certaines victimes avoir honte de ce qui leur est arrivé. Il y en a même qui n'en parlera aucunement à aux membres de leur famille. Donc, ils vont rester isolés, ils n'en parleront pas. Nous autres, ce qu'on mentionne à la population puis ce qu'on véhicule comme message, c'est qu'on veut que les gens dénoncent aux services policiers pour qu'on puisse avoir un meilleur portrait de la situation au niveau du Québec.
Merci beaucoup d'être venu ce matin. Lieutenant David Ouellette, qui est du service des enquêtes sur les crimes économiques à la Sûreté du Québec.
Merci.
Merci. On va parler d'une cause de chats et de chiens ce matin parce que le tribunal administratif du logement entend un dossier. C'est un propriétaire qui a résilié le bail d'une personne, donc de la locataire, qui vivait avec un chat et un chien, mais il y avait une clause dans le bail qui interdisait les animaux domestiques dans le logement. On sait qu'il y a tout un courant qui souhaite que Québec légifère et qu'on puisse permettre aux gens qui ont des animaux que ça ne soit pas un obstacle, que ces clauses-là qui interdisent la présence des animaux disparaissent. Maître Sophie Gaillard est avec nous de la SPCA. Maître Gaillard, bonjour.
Bonjour.
D'abord, peut-être nous expliquer plus en détail la cause en tant que telle.
Oui, donc il s'agit d'une cause qui oppose une personne locataire et son propriétaire en lien avec la clause qui interdit la possession d'animaux dans le logement. Donc le propriétaire cherche à résilier le bail et expulser la personne puisqu'elle contrevient à la clause en ayant un chat et un chien qui vivent avec elle. Et la personne locataire, elle, cherche à faire invalider la clause dans son bail. Et la SPCA de Montréal est intervenue dans le litige justement pour élargir le débat, puisque c'est une situation qui touche vraiment pas juste cette personne locataire, mais un grand nombre de personnes et d'animaux à travers le Québec.
Mais s'il y avait cette clause-là dans le bail, la personne le savait, à moins que la loi change, elle n'était pas quand même autorisée à avoir les deux animaux?
La personne, effectivement, savait que la clause était dans le bail. Malheureusement, c'est la situation de beaucoup de personnes actuellement qui vivent dans les logements où la clause est présente dans le bail qui interdit les animaux. Mais étant donné qu'il y a pratiquement aucun logement disponible qui permet les animaux, les gens quand même signent des bails, des baux qui interdisent la possession d'animaux dans les logements et se retrouvent ensuite dans des situations difficiles. Dans ce cas-ci, il n'y a aucune preuve à l'effet que les animaux causent aucun dérangement, quoi qu'il soit. Ce sont des animaux qui se comportent très bien, une personne extrêmement responsable. Et donc, on veut interroger le tribunal en quoi cette clause, ce type de clause est valide, surtout dans un cas où ça ne cause aucun dérangement.
OK. Et il y a combien de locataires dans l'immeuble?
C'est un immeuble à 5 logements.
OK. Puis, c'est quel type de chien?
Donc, il s'agit dans ce cas-ci d'un petit chien, un chien de petite taille et un chat également.
OK. Parce que moi, à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais je veux pas être à côté d'un chien plus massif, je suis allergique, j'ai peur. » Comment on peut gérer les allergies et les craintes?
Ben, au niveau des allergies, en fait, ça prend une allergie extrêmement sévère pour être allergique à un animal qui réside dans un autre logement ou où on réside nous-mêmes si on est la personne allergique. Donc, c'est vraiment très rare des allergies aussi sévères.
Non, mais il y a quand même des aires communes. Il y a des aires communes quand même fréquentées par les locataires, que ce soit dans certains cas les corridors, que ce soit l'entrée, je sais pas.
Oui, suivant le type de logement, mais encore une fois, par exemple, il y a le même sujet qui peut se poser, la même question qui peut se poser dans les transports en commun, quand on permet les animaux dans les transports en commun, est-ce que les études démontrent dans les transports en commun, par exemple, c'est que les allergènes proviennent généralement des vêtements des gens qui circulent plutôt que des animaux eux-mêmes dans les transports en commun. Donc, il faut aussi comprendre que les animaux dans les logements, les clauses qui interdisent les animaux dans les logements, c'est quelque chose qui est interdit depuis 1970 en France, depuis les années 90 en Ontario. C'est interdit en Allemagne, en Australie. Et il n'y a pas eu d'apocalypse, il n'y a pas de problème majeur causé par les animaux qui vivent dans les logements et l'interdiction de ce type de clause anti-animaux dans les baux. Donc, c'est quelque chose qui se fait ailleurs depuis longtemps. Il y a déjà de la réglementation qui encadre la possession d'animaux, donc des règlements municipaux qui empêchent les nuisances, l'insalubrité, etc. On a aussi, dans le Code civil du Québec, tout un cadre juridique qui protège les propriétaires des dommages causés au logement. Donc, il y a déjà des protections prévues, que ce soit au niveau de la loi provinciale ou de la réglementation municipale pour encadrer la possession d'animaux et s'assurer de protéger les droits des propriétaires. Donc, étant donné toutes ces protections en place et étant donné que plus de la moitié des foyers québécois maintenant, on parle de 52% qu'on prenne un animal de compagnie. Il est temps que la loi évolue et permette aux gens d'avoir des animaux dans les logements.
Et je dirais la pression politique ou le débat politique est rendu où? Est-ce que Québec prépare une loi ou c'est au neutre?
En fait, il y a un projet de loi qui a été déposé par Québec solidaire il y a presque un an exactement, qui n'a toujours pas été étudié par le gouvernement. On le sait évidemment que le gouvernement a adopté un projet de loi en matière d'habitation il n'y a pas tellement longtemps, mais continue à ignorer cet enjeu-là qui pourtant est très important en raison de son impact non seulement sur le bien-être animal, parce que ça cause un grand nombre d'abandons chaque année, cette situation, mais aussi l'impact sur les personnes, parce que ce qu'on voit quotidiennement à la SPCA de Montréal, c'est des gens qui adorent leur animal, qui s'en occupent très bien, mais qui sont forcés à un moment donné de faire le choix entre avoir un logement, pouvoir se loger et pouvoir garder un animal qu'ils considèrent comme leur membre, un membre de leur famille à part entière. Et c'est un choix absolument déchirant. Ça donne lieu à des scènes vraiment tragiques dans notre refuge, mais aussi partout à travers le Québec.
Parfait. Merci, Maître Gaillard. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir, Maître Sophie Gaillard et de la SPCA. Une autre histoire ce matin, deux citoyens qui avaient lancé une action collective contre un parc éolien, les éoliennes de l'Érable, c'est près de Victoriaville, se voient maintenant réclamer personnellement des frais d'experts. Il y en a pour $1 million. Il faut comprendre que cette demande d'action collective a été rejetée. Mais sauf erreur, c'est la première fois que je vois l'entreprise ciblée se retourner puis dire « vous allez me rembourser ou vous allez me payer ces frais d'expert ». Maître David Bourgoin, est avec nous. Il est avocat pour la firme BGA. Maître Bourgoin, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Parlons d'abord du fond du litige. C'était quoi le problème avec ces éoliennes?
En fait, il y avait deux volets. Il y avait la construction du parc éolien qui est en milieu rural, puis le fonctionnement des éoliennes. Donc, c'est un recours pour troubles de voisinage, c'est-à-dire les inconvénients qui excèdent le seuil de tolérance, les citoyens qui étaient à proximité, donc le bruit, la question des lumières, des sons, pas des sons, mais des vibrations et tout ça, puis il y avait le chantier au départ. La juge a rejeté au complet en disant que c'était pas des inconvénients intolérables. On n'a pas dit qu'il y avait pas d'inconvénients, mais que c'était pas intolérable, et c'était le test à passer. La cour d'appel a confirmé. Donc, on est dans le post-jugement et ce sont les frais de justice là, qui sont réclamés. Ils peuvent inclure des frais d'experts, mais ces frais d'experts-là n'ont jamais été produits. Il n'y a jamais eu de facture déposée devant la juge pour qu'elle puisse soit décider si elle les octroie ou non, ou si elle les réduit, parce qu'habituellement, c'est ce qui se passe. Et il n'y a rien eu. On a reçu un état des frais de près $1 million là, tout récemment, là, qu'on conteste, évidemment.
OK. Il y a donc deux personnes qui représentent la cause, mais au total, il y avait combien de citoyens à Victoriaville là, qui étaient concernés par cette démarche?
Selon le territoire, là, puis la délimitation, là, il y avait 200 à 300 propriétés, peut-être autour de 500 personnes visées là, par les inconvénients qu'on qualifiait d'anormaux, donc à peu près 400 à 500 personnes.
Est-ce que c'est une pratique courante de demander, quand le recours est rejeté comme ça, des montants pour de l'expertise ou autres dépenses comme ça connexes au dossier?
Habituellement, d'expérience, j'en ai fait plusieurs, puis on fait des procès. Il y a des dossiers pharmaceutiques où la pharmaceutique n'a pas réclamé, a renoncé à réclamer, c'est-à-dire n'a pas déposé ses factures, soit en disant mais je renonce, ou soit en parlant juste pas. Ici, c'est ce qui s'est passé avec Alien de l'Érable. Ils n'en ont pas parlé de leurs frais d'experts. Il y a même deux experts là-dedans qui n'ont même pas témoigné. Donc, les rapports n'ont même pas été produits officiellement en preuve, mais les frais sont réclamés quand même. Il y en a une facture de 250 000 pour une question d'évaluation des propriétés. Donc, c'est des montants astronomiques individuellement. SNC-Lavalin à 500 000 pour la question du suivi sonore. Puis, je fais une petite parenthèse ici. Le ministère de l'Environnement, il y avait un décret gouvernemental qui imposait à Éolienne de l'Érable un suivi sonore. Donc, les suivis des plaintes, le climat sonore et tout. Donc, ça devait être assumé de toute façon par Éolienne de l'Érable, mais il envoie la facture complète de SNC-Lavalin dans leur réclamation de frais. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a à peu près 500 pages de factures d'experts qui ont été joints à leur état des frais.
Bon, Maître Bourgoin, si j'écoute ça comme citoyen, puis il y a une cause qui, à mes yeux, ça vaut un recours collectif, une action collective, là. Vous êtes en train de me refroidir solide ce matin parce que j'ai pas le goût d'être le porteur de ballon puis de me faire dire, ben, ta requête est rejetée et voici en passant, on te réclame 500 000, 1 million ou 2 millions.
Et nous, on pense que c'est un des objectifs de dissuasion avec des montants aussi élevés, puis d'envoyer. C'est un message qui est envoyé. C'est pour ça qu'on l'assimile à une réclamation bâillon ou une intimidation financière pour lancer un message à d'autres. Parce qu'en ce moment, il y a des contestations. On voit en Mauricie là, sur un projet éolien. Alors, ça peut non seulement refroidir, mais empêcher toute contestation devant les tribunaux. Quand on s'expose à une réclamation comme celle-là. Donc, pour ça que c'est un dossier important.
Mais il n'y a pas des dispositions au Québec, là, c'est vous l'avocat, là, mais des dispositions au Québec justement pour empêcher des procédures bâillons?
Oui, l'article 51, c'est là-dessus que notre procédure porte. On a la contestation, la demande en rejet qu'on a déposée. Ça s'appuie justement, on s'appuie sur l'article 51 qui notamment fait référence à des poursuites Bayon.
Mais vos deux citoyens qui portaient le ballon ont dû être assommés de recevoir ça.
Oui, il a fallu qu'on les avise, avant de leur envoyer la brique, on leur a parlé, on leur a dit, regardez, ça va être contesté. Donc, il y a le fonds d'aide aux actions collectives qui a dû être également visé. Bon, là-dedans, ce sont les citoyens qui sont visés, les deux représentants. Oui, on a fallu qu'on prévienne et qu'on dise, ben écoute, on va porter le ballon pour contester et essayer d'éliminer ou de limiter au minimum les coûts de ses frais de justice.
Parfait. Merci beaucoup, Maître Bourgoin. Bonne journée.
Au plaisir. Bonne journée.
Au revoir. C'est Maître David Bourgoin qui est avocat à la firme BGA. Et on le sait que le Québec avait justement adopté des dispositions pour faire en sorte... C'est facile, un gros qui débarque puis qui dit « Je t'envoie une poursuite, puis t'es petit, puis t'as pas moyen de te défendre. » Puis l'objectif, c'est de te faire taire, tout simplement. Donc, t'oses plus rien dire, t'oses plus rien faire. Et là, on voit l'entreprise qui se revire de bord. Puis tu dis, toi, comme citoyen, vas-tu aller devenir la figure du recours collectif s'il y a des centaines de milliers de dollars qui te pendent au bout du nez? Ça va être intéressant à suivre.
C'est 23.